question des consciences, le français de la Macolette. Et de la même manière pour l'hébreu. Et l'hébreu, l'expression de la vérité, c'est le Lachon HaKodesh, et puis vous avez l'hébreu de la Macolette, l'hébreu de la rue, qui est l'hébreu de communication des consciences. C'est l'ivrite, comme on dit maintenant en hébreu moderne. Donc, et la parole exprime l'âme. Et l'intelligence est une des fonctions de l'être vivant. Mais celui qui parle, ce n'est pas l'intelligence, c'est celui qui parle à travers sa pensée, à travers son intelligence. Vous avez compris le problème? Est-ce que c'est plus clair? Je vais reprendre un schéma qu'on a étudié d'ailleurs à propos du Kriyat Shema d'ailleurs. Quoi?
Comment se dit que le Shema Kodesh se signe imagé?
Dafka, non. Donne-moi un exemple.
Pour exprimer des sentiments, on emploie des images. Il y a très peu de concepts. Pour exprimer des idées de Dieu, on emploie des anthropomorphismes.
Ah, top. Non, ça veut dire que c'est un langage concret. Mais la signification du langage, elle, est abstraite. Je vais vous dire, je ne sais pas comment vous dire ça. J'essaie de vous prendre un exemple simple. Prenez par exemple un mot que nous avons déjà étudié, le mot barer. Okay. Le mot barer signifie bénir. Oui, vous vous rappelez de cela? Bon. Mais le même mot barer peut servir pour dire maudire. Oui. C'est au niveau du langage concret. Mais qu'est-ce que ça veut dire bénir? Et qu'est-ce que ça veut dire maudire avec le même terme concret? Eh bien, il faut s'élever au niveau de la signification de cette racine, qui elle est absolument abstraite et qui peut avoir deux exposants. On était arrivé à l'idée de densité de l'être, fécondité, vous vous rappelez? Et lorsque la densité est adaptée au véhicule qui la reçoit, alors il y a bénédiction. Mais lorsqu'elle est désadaptée, il y a malédiction. Par exemple, je vous ai donné cette image. Si on fait passer un courant trop fort dans une ampoule, elle éclate. Okay? On a donné trop. Alors, ce trop fait que le plus était une bénédiction, mais le trop est une malédiction. Vous voyez à peu près le problème. Il faut arriver à la notion absolument abstraite. Parce que, finalement, tant qu'on reste au niveau de la pensée par image, les images créent des passions. L'image est la source de mythes. L'image est la source de passion. L'image est la source de violence. Bon, alors si nous revenions rapidement à notre main, il n'y a pas d'autres questions?
Au début d'année, quand on a commencé à étudier Chi, vous avez dit que la différence entre l'homme et l'animal ne se faisait pas sur la parole, mais sur le problème moral. La prise de conscience chez l'homme, une certaine vigueur, tout ça, parce qu'on voyait qu'il y avait un dialogue qui avait avec le narrateur.
Alors je vais essayer de mettre ça en ordre. Et heureusement qu'il y a les cassettes, je ne sais pas si elles existent encore, tu les reliras. Enfin, tu les reliras, tu les réécouteras. J'ai jamais pu dire que la différence entre l'homme et l'animal ne se fait pas par la parole. Je vais vous dire un principe auquel peut-être vous expérimenterez vous-même quand vous y arriverez. Depuis que j'étais enfant au Talmud Torah, un de mes maîtres m'a donné une consigne, j'étais tout gosse. Deux consignes que j'ai essayé de pratiquer toute ma vie. D'abord, de ne jamais m'endormir sans avoir appris une connaissance nouvelle. Et au moins une idée nouvelle. Et il y a des nuits bénies où on apprend des milliers de choses nouvelles. Donc, et ça, essayez de le faire. Ne vous endormez pas avant d'avoir acquis quelque chose de nouveau. Mais vraiment acquis, c'est-à-dire que ça reste dans la mémoire. Si c'est, vous avez une idée, puis elle s'envole. Sinon, on se lève le lendemain matin un peu plus vieux que la veille. Tandis que quand on a une idée nouvelle, avant de s'endormir, on se lève le lendemain matin plus jeune que la veille. Et Hadashim la Bekari. Et puis la deuxième chose, c'est que je sais ce que j'ai dit, parce qu'en général, je ne dis que ce que je sais. Vous comprenez ce que je veux dire? Et comme je sais que la différence entre l'homme et l'animal, c'est la parole, j'ai jamais pu dire que c'est pas la parole. Donc c'est mal dit, ce que tu as dit, toi. Tu te cites différemment. Alors, ce que je vous avais dit, c'est que le commencement de la conscience morale, c'est la pudeur. Okay? Que la différence entre l'homme et l'animal, c'est la conscience morale, mais que le commencement de la conscience morale, c'est l'expérience de la pudeur. Ce que je vous avais dit, c'est que le premier être que la Bible appelle nomme Adam, c'est le premier être capable de conscience morale. Quel est le signe? C'est la pudeur, l'expérience de la pudeur. Et ça, tous les ethnologues sont d'accord, c'est que, quelle que soit la civilisation la plus rudimentaire chez l'homme, dès que le signe de la pudeur apparaît, on sait que ce n'est pas un animal. Vous comprenez ce que je dis? Alors qu'on n'a trouvé chez aucun animal, aucun signe qui ressemble à l'expression de la pudeur. Bon. Et le signe de la pudeur, c'est ce que l'ethnographie a établi assez longtemps, le vêtement. Je ne sais pas si vous avez appris cette étymologie du mot vêtement en hébreu. Bon. Et par exemple, vous avez dans certaines sociétés que j'ai étudiées, j'ai oublié un peu les détails, ce sont des sociétés qui vivent absolument tout nus, sauf un fil qu'ils ont autour de la ceinture. Et quand par exemple on veut déchoir quelqu'un, on lui enlève ce fil-là, il se sent tellement nu sans ce fil-là, qui se précipite sur un cocotier pour se jeter du cocotier, pour se suicider, parce qu'il est déshonoré, il a été déshabillé, alors qu'ils sont tout nus. Mais oui, le signe de la pudeur.
C'est
vrai. C'est
vrai.
Oui, comme quoi la vie ne tient qu'à la fille. Voilà. Et vous avez deux mots en hébreu pour dire le vêtement.
Le mot de beged.
Ça se rattache à la racine bagod, qui signifie trahir. Boged, c'est un traître. Okay. Beged, c'est le vêtement de travestissement. C'est le déguisement, beged. Okay. Vous avez compris le lien des termes. On s'habille pour se cacher, pour se déguiser. Comment on dit déguisement en hébreu moderne? Tarkoset. Top. Et vous avez l'autre mot, lébouche. Le lébouche, le vêtement. Et ça se rattache à boucha, qui signifie la honte. Lébouche, c'est le vêtement que l'on met à cause de la honte. C'est le lébouche qui exprime l'expérience de pudeur. Okay? Alors que beged, c'est l'habillement dont on s'habille pour se cacher. Vous voyez la différence? Bon, en hébreu pratique, courant, on emploie l'un pour l'autre. C'est évident. Mais vous voyez le sens étymologique. Non, alors retenez bien cela. La différence spécifique de l'homme par rapport à l'animal, c'est la parole. Okay? Et je vais vous le montrer dans le texte. Vous allez prendre les livres de Bréchis. Il faut que je vous montre dans le texte quand même. Et puis, je voulais peut-être montrer, mais trop rapidement. Et d'autre part, l'identité, et vous voyez le lien entre la parole et le problème moral, okay? Et l'identité humaine se caractérise par la conscience morale. Et l'apparition de la conscience morale, c'est l'expérience de la pudeur. Vous voyez la différence?
Pourquoi l'animal est doué de parole? Le linguage.
Très bien, c'est parce que, ça nous l'avons étudié, c'est l'animal le plus évolué qui aurait pu être un homme. Voyez, la différence entre ce Nahash, qui est disons un quasi-homme, je vous ai fait allusion à cela, mais uniquement par allusion je suppose, l'humanité est pleine de descendants de ce Nahash, okay, qui sont parmi les hommes et qui se font prendre pour des hommes. Okay. La configuration physique n'a aucune importance dans le problème. C'est l'identité profonde de la personne qu'il y a derrière, elle est ou appartenant à Adam ou appartenant au Nahash. Bon, je vous dis ça uniquement par allusion. Et la différence, c'est l'homme est doué de sagesse, Chorma, alors que la pensée chez le Nahash, elle est Orma, c'est-à-dire la ruse. Quelle est la différence entre la ruse et la sagesse? Encore une fois, le critère moral. Où est la différence? La pensée la plus élaborée, mais pas douée de conscience morale, devient dévastatrice. C'est la ruse. Et vous voyez que ce n'est pas l'intelligence qui définit l'identité humaine fondamentale, profonde, c'est la moralité. Bien. Je veux dire, l'être que la Bible nomme Adam, c'est l'être humain doué de conscience morale. Il a des problèmes avec le Nahash. Le nahash, c'est un animal évolué qui aurait pu être homme, qui est très intelligent, mais qui n'est que rusé, qui n'a pas accédé à tout. Ken. Pardon. Bon. Quand j'ai posé la question à mon rabbin, il m'a répondu l'étonnant. C'est pas que l'ânesse de Bilam ait parlé, c'est que les autres ne parlent pas. Ça veut dire, voilà comment il a expliqué. Ça veut dire que tout vivant était donné à la possibilité d'être vivant, doué de parole. Okay. Mais un seul a réalisé en acte, c'est l'homme. Et dans des conditions exceptionnelles, eh bien, la bouche des autres êtres vivants, pour dire un langage concret, peut s'ouvrir. Et d'après la tradition, le roi Salomon comprenait le langage de tous les animaux, de toutes les plantes, de tous les arbres et même des pierres. Okay. Ça veut dire que finalement, sous forme cachée, endormie, eh bien, cet être de la parole est dans toute la réalité. Seulement, il ne s'exprime que chez l'homme. Comme ça, vous pouvez le comprendre. Eh bien, écoutez, c'est le problème du langage qui est beaucoup plus large que la parole. Et le problème du langage, c'est que beaucoup de comportements sont des langages par signes. Ce que tu appelles peut-être la parole infraverbale, okay, ce sont des langages par signes. Il y a des attitudes qui sont des langages, il y a des mimiques qui sont des langages. Et effectivement, chacun a son style. C'est-à-dire, on connaît quelqu'un... Oui, c'est-à-dire, c'est l'indice que c'est un langage. Mais alors, donne-moi un exemple, à quoi tu penses?
Je vois, on dit souvent que, par exemple, certains sages s'abriment sur les visages.
Oui, c'est une façon de parler. Ça veut dire qu'ils savent comprendre qui est celui qu'ils voient.
La parole, bien. Ça sert aussi à ça.
Ah, bien sûr. Ah, bien sûr.
Donc, je veux dire, est-ce que...
Ça, c'est de... Je veux dire... Aussi, oui, c'est-à-dire, quelqu'un qui possède la sagesse, on ne peut pas le tromper. Je veux dire que, quel que soit... La manière dont quelqu'un essaye de se déguiser dans sa parole, ça ne trompe pas. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Enfin, aujourd'hui, la psychologie moderne, à travers Freud, a découvert, en tout cas, ce qu'on appelle le non-dit. Ce que l'on dit dans le non-dit, dans ce que l'on ne dit pas. Par exemple, le problème du lapsus. Le lapsus dit beaucoup de choses. Toute la Gemara de Psachim commence par là. Il y a 10 pages sur ce problème. Et comment on arrive à connaître quelqu'un d'après la manière dont il parle. Il y a deux exemples là-bas. Mais par excellence, c'est la parole qui exprime l'être profond. Et c'est la raison pour laquelle la communication est un problème si difficile, parce qu'on a peur de parler. Parce qu'on ne peut vraiment parler qu'à quelqu'un avec qui on est en paix. Il n'y a que lorsque la relation de paix s'est installée que la parole est possible. À la limite, il y a une seule parole, c'est la parole de paix. Vous avez signalé cela un jour. La première chose que le Rav enseigne chaque fois qu'on va le voir, c'était la première fois qu'on l'avait vu, c'était la première chose qu'il nous avait dit. Comment en hébreu on se dit bonjour? En se disant shalom. Et partout ailleurs, il y a des souhaits qui sont des souhaits, honorables. Quand même. Par exemple, en français, on dit bonjour. Bon, et la nuit? Pas complet. En latin, on disait salve. Qu'est-ce que ça veut dire salve en latin? Qu'est-ce qu'il connaît?
Salut.
Salut, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire étymologiquement? Ça veut dire
sauver.
Ça veut dire porte-toi bien, salve. Okay. Porte-toi bien, très bien. Et moi? Oui, c'est pas complet. Il y a que le mot de la rencontre complet, c'est le mot de shalom, et d'ailleurs les Arabes l'ont aussi, ils le tiennent d'Abraham, c'est salam. Ils ont trois mots différents pour dire la paix, et c'est pas celui qu'ils emploient quand ils parlent de Camp David, mais enfin, c'est de notre problème.
Les bouddhistes tibétains.
Ça, on n'a pas parlé de ça, mais on était très en paix, d'ailleurs. Et en tout cas, du point de vue de l'enseignement de la Torah, il est clair que la différence spécifique de l'homme par rapport à tout être vivant, c'est donc la parole. Vous allez le voir dans le verset, donnez-moi juste un livre de... Non, j'en ai un. Si vous avez un livre de Bréchit, prenez-le, sinon je vous donne la référence. C'est au verset 7 du chapitre 2. Vous y êtes ? Au chapitre 2, verset 7. Voilà. Vous avez un livre avec Rashi ? Bon, alors je vous lis le verset. « Vaïtser Hachem Elohim » et Dieu forma... Est-ce que nous avons étudié le verset ? Ce verset ? Est-ce qu'on a étudié pourquoi il y a deux yud dans le verset ? Dans le Vaïtser ? On a étudié cela. Donc. Oui ou non ? Hein ? La Kita Gimel seulement ? Bon, de toutes les façons, on étudiera une Gemara là-dessus une fois. « Vaïtser Hachem Elohim » et Hachem Elohim forma et à Adam, l'homme, afar mina Adama, à partir de la poussière de la terre, ou poussière prise de la terre. Mais faites attention, ici le mot de poussière n'a pas le sens qu'il a en français. Okay? Afar, c'est pas la poussière que vous avez avec le balai. Non. Afar, c'est ce qu'il y a de vivant dans la terre. C'est ce qui donne le fruit. Vous voyez, dans afar, il y a les deux mots deux lettres du mot péri, perech. Afar mina adama. Alors ne traduisez pas poussière, vous comprenez. Et il y a un mot en français qui est un mot un peu savant, c'est l'humus. Vous voyez qu'en latin, humus, c'est très proche de la racine de homus. Homo minus. C'est la racine. Hein? Afar mina adama. Vaipar beadam nishmat chayim. Et il anima son visage de l'âme de vie. Vayi Adam le nefesh chaya, et l'homme devint personne vivante. Et ce nefesh chaya, on a étudié le sens du mot nefesh, et je vous ai dit que nefesh, ça veut dire d'abord le souffle. Okay? C'est le souffle qui fait parler. Ruach, c'est le souffle que l'on inspire, et nefesh, c'est le souffle que l'on expire. Je vous ai donné tous les sens du mot nefesh une fois. Vous l'avez noté, ça ? Vous vous rappelez, nefesh veut dire le souffle, ensuite il veut dire la parole, ensuite il veut dire la personne, ensuite il veut dire le cadavre, ensuite il veut dire la tombe. Vous vous rappelez de cela ? Non ? Oui, oui, on a étudié. Bon. Si, sûrement. Je me rappelle que c'était dans ce côté du tableau. Et alors, il y a peut-être très longtemps, oui, c'est possible. On aura l'occasion de reprendre. Vaï Adam le nefesh chaya. Et l'homme devint personne vivante. Alors nous allons lire Rashi. Prenez Rashi sur nefesh chaya, la fin du verset. Alors je vous lis. Af behema vechaya, même, on l'a vu, ça va, même la bête, behema c'est la bête domestique, chaya c'est la bête sauvage, personne ne s'appelle chaya. Af behema vechaya, nikreu nefesh chaya, ont été nommés par le verset, nefesh chaya, personne vivante. ach, mais zou shel adam, celle de l'homme, chaya shebekulam, est la plus vivante de toutes, chez Nitosev Bo, parce que lui a été ajouté Da'at Vedibour, la connaissance et la parole. Alors, vous allez prendre le Targum à propos du verset. Vous avez le Targum en face de l'hébreu. Okay? Alors, regardez au verset 7. Je lis avec vous. Je vais lire et puis on arrivera à l'expression que je vais vous traduire. Ubera Hashem Elokim, Yat Adam, Afra Minadmata, Unfar Ben Pohi, Nishmata de Haye. Alors, c'est là que ça commence. Vahavat Be Adam. Voilà comment le Targum traduit, et cette Neshama, cette âme de vie, Vahavat, elle est devenue Be'adam dans l'homme, les Ruach Memalela, souffle de parole. Mila, en hébreu, c'est une parole. Okay? Vous connaissez le mot Mila en hébreu? Ruach Memalela, en araméen, ça veut dire souffle parlant. Il y a une différence entre le Targum et l'hébreu. L'hébreu dit que c'est l'homme qui devient Nefesh Chaya, personne vivante. Le Targum dit c'est son âme qui en lui est devenue Ruach Memalela. Bon, enfin, l'idée à laquelle je voulais arriver, celle-là, c'est que la différence de l'homme vis-à-vis de l'animal, c'est la capacité de parler. Alors encore une fois, pourquoi c'est cette définition qui sera retenue? C'est parce que cela implique que la parole renvoie au quelqu'un que chacun est. Un peu à la conclusion à laquelle on est arrivé tout à l'heure avec Elie, c'est dans la parole de chacun qu'on sait qui il est. Alors vous voyez à quel niveau cela se passe de connaissance. Lorsqu'on écoute attentivement, ça m'est très souvent arrivé, écoutez attentivement le discours de quelqu'un, bien, vous savez finalement quelles sont ses tendances morales, s'il est croyant ou s'il ne l'est pas, s'il a la foi ou s'il ne l'a pas, même s'il est théologien, et... parce qu'il dit ce qu'il est. Et vous voyez pourquoi, encore une fois, il y a cette espèce de pudeur de la parole, qu'on appelle psittacisme. On parle beaucoup, précisément pour ne rien dire. Parler pour ne rien dire, pourquoi? Parce qu'on n'ose pas parler. Parce que parler, c'est finalement se livrer. Exact.
Nahon.
Ça veut dire dans la création tout entière, il y a Nefesh Chaya, mais finalement, elle ne s'exprime qu'à travers le corps de l'homme, à travers la personne de l'homme. D'accord ? C'est ce que dit Rashi. Tout être vivant est appelé Nefesh Chaya, pour rappeler le début de Rashi sur ce verset. Mais le Nefesh Chaya de l'homme est le plus vivant parce qu'il est porteur de parole, ou l'inverse. Et, écoutez, il me reste 6 minutes, je voudrais terminer sur le Mahamar que l'on a vu. Je vais citer un enseignement de la Kabbalah sur le Mahamar en question, ça vous éclaire un peu. Et la parole, une fois émise, finalement, elle est détachée de celui qui l'a émise. Or, la source de cette parole, c'est la personne de celui qui l'a dite. Et par conséquent, toute parole dite, une fois dite, est en situation d'exil. C'est clair ce que je veux dire? Et par conséquent, le monde de la parole est un monde d'exil. Citer quelque chose au nom de celui qui l'a dit, c'est ramener cette parole exilée à sa source, et c'est donc amener la délivrance. C'est joli comme explication. Okay. Et ça nous sert à quoi? Oui, l'exil de la parole. Okay. Et alors ça va nous servir de transition avec ce que vous étudierez à Pessah. La première chose qu'on étudiera à Pessah, c'est que Israël est descend dans l'exil pour délivrer les paroles prisonnières. Voilà comment cela est expliqué. Que l'exil, c'est d'abord l'exil de la parole, mais à quel niveau? Je ne sais pas si M. Nair a pris ça comme... titre d'un de ses livres. C'est ça, oui. Je ne sais pas si c'est ce midrash-là qu'il a pris comme base. Enfin, et voilà, le midrash nous enseigne que Dieu a créé le monde par sa parole. Et par conséquent, depuis la création du monde, la parole de Dieu est en exil dans le monde. Et donc, la, La Géoula, c'est la délivrance de la parole qui est exilée. Oui, l'idée est apparemment très simple, on l'étudiera très, très en détail. Et en particulier dans la Gada de Pessah, l'explication de la raison pour laquelle, dans tous les cas, il était nécessaire qu'Israël descende dans l'exil. Là où la parole, je veux dire, en français nous avons une expression « délivrer un message ». Okay. Alors, pour le prendre dans le sens strict, il y a un message qui n'arrive pas à se délivrer. Alors il faut aller délivrer le message. Okay. Il y a une parole qui se tait dans l'élaboration de chaque civilisation. Elle n'arrive pas à s'exprimer. Alors il faut la libérer. Dans la Haggadah de Pessah, peut-être quelques-uns d'entre vous ont déjà cette formule en tête, si vous avez déjà lu la Haggadah chaque année, que Jacob était dans tous les cas destiné à descendre en exil, qu'il le veuille ou pas. Et nous avons appris qu'il y a deux manières de descendre en exil, dans la gloire ou dans la persécution. Ça dépend du mérite. Vous vous rappelez de cela? Et pour que l'exil de Jacob soit honorable, alors Joseph est descendu avant pour le préparer et le recevoir comme le roi reçoit le roi. Okay. Et la Haggadah dit, Melamed, Anus Alpi Adibour, que Jacob est descendu forcé par la parole. Anus Alpi Adibour, ça te dit quelque chose? Anus Alpi Adibour, non? T'as oublié? Bon, mais vous verrez dans la Haggadah. J'aimerais bien que tout le monde ait déjà une Haggadah quand je reviens, de telle sorte qu'on puisse commencer à étudier tout de suite. Hein. Débrouillez-vous pour l'acheter, ou arrangez-vous avec Tamar, mais bon, achetez une Haggadah en hébreu et français, de telle sorte qu'on puisse. Alors, Anus Alpi Adibour, ça veut dire forcé par la parole. L'explication habituelle, c'est quelle parole? La parole que Dieu avait dite à Abraham que sa descendance serait exilée 400 ans. Vous vous rappelez de ce verset? Okay. Ça, c'est l'explication classique. L'explication de la Kabbalah est que Jacob a été appelé par cette parole qui était prisonnière. Il a été forcé par cette parole de telle sorte de venir la délivrer. Et effectivement, la révélation de la parole s'est faite à la sortie d'Égypte. Jusqu'à la sortie d'Égypte, la révélation ne peut pas se faire. Moïse n'arrive pas à parler. Il bégaye. Okay. Vous avez compris? Et dès la sortie d'Égypte, c'est Moïse qui est le porte-parole. Okay. Alors on interprète le mot de Pessah de la manière suivante. Pessah, étymologie, ça veut dire tout à fait autre chose. Ça veut dire c'est l'examen de passage. Okay. Passer d'un monde à l'autre. Passer au-delà. Alors la Kabbalah est comme ça. Et dire la bouche pure. Pessah, la bouche pure. Et alors que paro, c'est les lettres de Pessah, la bouche. Ouais. Ça veut dire que, on en parlera ça plus en détail, cette parole qu'il s'agit de délivrer, elle est en exil, alors il faut descendre là où elle est pour ouvrir la bouche. Bon, alors retenez en tout cas l'explication que je vous ai donnée à propos de Purim. Alors, Kola Omer, Davar, Beshe, Momro, Mebi, Geula, Laola, Sheneemar, Otomer, Esther, Beshe, Mordechai. Et cela a été enseigné pour les paroles de la Torah en général. Pour rappeler, nous avons étudié un peu en détail avant-hier. Il n'y a pas de dîme qui oblige à dire quelque chose au nom de celui qui l'a dit, parce que la Torah appartient à tous. Seulement, c'est une vertu de citer quelque chose au nom de celui qui l'a dit. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne sait pas qui a dit quoi, on ne sait pas vraiment ce qui a été dit. Ça dépend qui a dit ce qui a été dit. C'est-à-dire, on a vraiment dit une parole de vérité que si on sait qui l'a dit. C'est pas n'importe quelle phrase, dite par des hommes différents, prend un sens différent. Vous comprenez l'idée, elle est simple. Je vais donner un exemple. Je me rappelle avoir vu une espèce de caricature, pas de caricature, comment on appelle ça, des cartes postales humoristiques, comment ça s'appelle? D'Angleterre. Les Anglais sont spécialistes de l'humour britannique, comme vous savez, l'humour froid. Alors, cette carte postale représentait une espèce de bébé, joufflu, hilar, prenant un air triste, comme ça, les mains comme un pape anglais. Et la légende, c'était « Ah, mes enfants, la vie !» Vous voyez un bébé dire ça, hein. Vous voyez à peu près l'idée. Si c'est un bébé qui dit ça, ça n'a aucun sens. Si c'est un vieillard qui dit ça, ça commence à prendre un autre sens. Alors ça veut dire qui a dit quoi ? Si Rabbi Akiva a dit quelque chose, c'est pas la même chose que si je l'entends de n'importe qui. Ça prend un sens précis, différent. Vous comprenez ? Et par conséquent, à Omer Dabar Bechem Omro, celui qui non seulement dit une parole de vérité, mais l'a dit au nom de celui qui l'a dite, celui-là amène la délivrance dans le monde. Parce que c'est à cette seule condition que la parole qui a été dite est vraie. Elle a son sens. Vous avez compris le problème. Et alors, c'est enseigné à propos de toute parole de la Torah ou toute parole de la sagesse. Alors, je vais vous ajouter encore un enseignement à ce sujet. C'est que, à la limite, la délivrance ne pourra venir dans le monde que si on reconnaît à celui qui a dit la parole à l'origine que c'est lui qui l'a dite, c'est-à-dire Dieu lui-même. C'est-à-dire, si on ramène la sagesse à celui qui l'a dite, alors la Géoula va venir. Ça, c'est la limite. D'accord. Ça se rattache à un principe important, je vais m'arrêter là, c'est que dans l'enseignement de la Kabbalah, le mal, c'est quelque chose qui aurait pu être bien, mais qui a été coupé de sa source, autonomisé, et qui fonctionne par lui-même, ça devient mal. Et que la seule rédemption possible, c'est de le rattacher à l'unité des valeurs. Alors, il perd son visage de mal et il redevient le bien absolu. Vous voyez le problème ? C'est-à-dire, toute parole coupée de sa source peut devenir dévastatrice. Et elle n'est bénéfique que si elle est reliée à celui qui l'a dite. Vous voyez le problème ? Bon, vous voyez qu'il y a là une consigne de surveillance de la parole absolue. Au fond, au jugement dernier, et on va être jugé sur ce qu'on a dit. Il y a un Mahamar dans la Gemara qui dit que au moment de la mort, on revoit tout ce qu'on a vécu et on entend tout ce qu'on a dit. On nous répète tout ce qu'on a dit et la Gemara ajoute même les paroles secrètes qu'un homme dit à son mari, qu'une femme dit à son mari ou qu'un homme dit à sa femme. Tout est répété parce que tout est gardé dans la mémoire. Alors, vous voyez à quel point il faut surveiller ce qu'on dit. Et il y a une Mishnah très jolie, je vais arrêter là, qui dit Velo matzati laguf tof mishtika kol yamai gadalti ben achamim. Toute ma vie j'ai grandi parmi les sages. On a étudié ça, la Kita Gimel. Oui. Ok, ça va. Pas avec moi. Alors, je vous la répéter, puis on s'arrêtera là. La Mishnah dit toute ma vie j'ai grandi parmi les sages. Kol yamai gadalti ben achamim. Velo matzati laguf tov mishtika. Et je n'ai pas trouvé pour le corps meilleure chose que le silence. La première question qu'on pose, c'est au fond, qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Il vaut mieux se taire. Okay. Mais pour dire ça, il faut parler. Okay. Et voilà l'explication du Rav Nachman de Breslav de cette Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai grandi parmi les sages. Il dit Ben Ahachamim en hébreu, ça veut dire entre les sages. Et entre les sages, il y a la controverse. Et c'est de cela, dit Rav Nachman Mirassav, qui veut comprendre la Mishnah. Et j'ai compris que la meilleure des choses, c'est de se taire. Parce que on apprend de la Gemara que celui qui calomnie quelqu'un qui ne le mérite pas est frappé dans son corps. Ça veut dire qu'il faut se garder des paroles de controverse. C'est ça le sens de la Mishnah. Et il dit, je connais toutes les controverses qu'il y a eu entre les sages, et ça m'a appris que la meilleure des choses, ça consiste à se taire. Alors à ce moment-là, c'est un tout autre langage. À travers le silence, passe une connaissance. Je me rappelle avoir étudié de Martin Buber. Pas étudié, écouté, entendu. Martin Buber, vous savez qui c'est. Bon, je l'ai entendu une fois vivant. Il avait fait un discours sur ce thème. Il y a des silences vides et des silences pleins. Il y a des silences pleins d'enseignements. Alors qu'il y a des silences vides, de rien du tout. C'est-à-dire, plus haut que la parole qui parle, il y a la parole qui se tait. Et du silence, on apprend plus, parfois, que de la parole. Bien, alors on prendra tout ce problème de la parole en commencement de Pessah. Qu'est-ce que tu voulais dire
maintenant que je commence toute l'histoire de la vie, Dieu continue à parler aux hommes, continue à parler aux prophètes. Est-ce que cette parole est quand même en exil, même si elle est reçue par des êtres de vérité ?
D'accord. jusqu'au moment de la Géoula.